Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le regain d'actes antisémites en France et la parole d'un homme qui se fait rare dans les médias. Bertrand Delanoë, invité du journal de 13h, il participera à la marche organisée demain, notamment à Paris. Et par ailleurs, il porte un regard plutôt bienveillant sur le débat et l'implication d'Emmanuel Macron. Comment lutter contre cet antisémitisme qui s'est encore exprimé ce week-end? Un député propose de condamner dans la loi l'antisémitisme. Sionisme, de quoi parle-t-on? Au nom de bons principes, est-on en train d'empêcher le débat sur la politique israélienne, par exemple? Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter, nous explique ce week-end à Paris les insultes à Alain Finkielkraut. Le point de l'enquête avec Sophie Parmentier dans un instant. Autre volet de la crise des Gilets jaunes. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
La question du pouvoir d'achat, les entreprises appelées à verser des primes, c'est plutôt une surprise, elles ont dit oui, Laurent.
Oui, à 74%, trois quarts des entreprises françaises ont donc répondu positivement à l'appel du chef de l'État en versant cette prime sans charge ni fiscalité.
Les détails avec vous dans quelques minutes. Les populistes vont-ils faire une entrée massive au Parlement européen? Sondage dans les 28 pays à moins de 100 jours des élections. L'extrême droite progresse. 28 pays, oui, car si les négociations autour du Brexit continuent de traîner, les Britanniques pourraient voter au mois de mai. Vous vous arrachez les cheveux, c'est normal. Les experts aussi, nous entendrons une juriste. C'en est presque drôle. Dans cette édition encore, le cas de l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Elle produit naturellement beaucoup de testostérone. La fédération d'athlétisme lui demande de se soigner pour faire baisser le taux. L'affaire est devant le tribunal du sport à Lausanne. L'écriture inclusive vous inquiète ou vous agace? Nous entendrons un de ces chauds partisans, un avocat qui veut féminiser le langage.
Le langage structure notre monde et si on fait disparaître les femmes de notre langue, on va les faire disparaître de l'espace public, des postes à responsabilité et de notre monde justement in fine.
Et avec d'autres juristes, il porte plainte aujourd'hui contre une circulaire qui interdit dans l'administration l'écriture inclusive. Le temps de ce jour, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
L'anticyclone faiblit temporairement.
Oui, temporairement. Effectivement, aujourd'hui, prévoyez de la pluie de la Bretagne à la Normandie. Le ciel sera nuageux des Pays de Loire au Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, votre après-midi sera encore douce et ensoleillée, excepté vers le Languedoc, le Lauragais et les Cévennes, où les entrées maritimes sous forme de nuages bas resteront d'actualité. Et puis les maximales dans l'ouest seront proches des moyennes de saison, y compris entre 10 et 13 degrés. Prévoyez 14 à 19 degrés ailleurs.
Merci Jean-Pierre, à tout à l'heure pour d'autres détails. Vous pensez que l'agriculture est un métier d'homme uniquement? Eh bien vous entendrez Miss France Agricole 2019, Clémentine Rigaud, 18 ans, études d'agriculture, et son rêve c'est de reprendre la ferme familiale. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Une sale pute, un sale sioniste de merde et une voiture de police caillassée. Le week-end n'a franchement pas été une publicité pour les manifestations de gilets jaunes. La femme insultée, c'est Ingrid Levavasseur, pourtant une des figures du mouvement, mais malmenée parce que sa façon de militer ne plaît pas à tous les manifestants. Elle va porter plainte. L'impunité des injures et violences faites aux femmes, c'est terminé, écrit-elle sur Facebook. Plainte aussi des deux CRS, dont le fourgon de police a été caillassé sur l'autoroute A7 qui traverse Lyon, c'était samedi. Et le sioniste de merde, entre autres fleurs, c'est donc Alain Finkielkraut, le philosophe conservateur, qui dit notamment partager l'attachement à Israël de tous les juifs. Flot de propos antisémites contre lui samedi, images filmées, on voit notamment un homme visage découvert. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Avec vous, le point de l'enquête sur cette affaire.
Oui, alors précisons d'abord que ce n'est pas la première fois dans un cortège de gilets jaunes qu'il y a des injures ou des gestes antisémites. Au mois de décembre dernier, souvenez-vous, dans les rues de Montmartre, des manifestants avaient chanté la quenelle de Dieudonné. Quelques jours plus tard, une vieille dame juive s'était opposée dans le métro à d'autres gilets jaunes qui mimaient devant elle des quenelles. Et plusieurs fois ces dernières semaines, la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a signalé ce type de fait à la justice. Mais c'est la première fois qu'il y a eu un déferlement de violence antisémite si puissant contre un homme, Alain Finkielkraut, donc qui s'est retrouvé samedi sur un trottoir parisien face à des gilets jaunes qui l'ont violemment insulté et menacé. Barre-toi, crie d'abord un premier gilet jaune, bâtard, enchaîne un autre. La France, elle est à nous, t'es un haineux, Dieu va te punir, espèce de sioniste, hurle un troisième gilet jaune qui, lui, a été identifié dès samedi soir. C'est un homme barbu qui a des liens avec la mouvance salafiste selon les services de renseignement, services qui ont transmis leurs informations à la brigade chargée de cette enquête. L'enquête est toujours en cours avec d'autres personnes à identifier. Certaines semblent plutôt proches de l'extrême gauche selon des sources policières. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a eu aucune interpellation dans cette enquête ouverte précisément hier pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la religion. Sachez que les auteurs risquent 1 an de prison, 45 000 euros d'amende et pour l'instant, Alain Finkielkraut n'a pas porté plainte.
Et cela vient après les croix gammées sur un portrait de Simone Veil, après l'inscription Juden sur la vitrine d'un vendeur de bagels, après l'arbre hommage à Ilan Halimi arraché. Comment lutter contre l'antisémitisme? Un groupe de députés, dont l'élu En Marche Sylvain Maillard, veulent pénaliser l'anti-sionisme. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, anti-sionisme, de quoi parle-t-on Yaël?
Alors on parle d'abord d'une position très forte, celle du président, on l'a peut-être oublié, mais le 16 juillet 2017, Emmanuel Macron disait ceci en commémorant la rafle du Veldiv.
Nous ne céderons rien à l'anti-sionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme.
Et au Parlement, un groupe d'une quarantaine de députés se met au travail, un groupe transpartisan, sous la houlette, vous l'avez dit, de Sylvain Maillard, le groupe d'études contre l'antisémitisme, étudie toutes les options. Comment rendre pénalement condamnable l'antisionisme? Toute la difficulté, nous dit Sylvain Maillard, c'est d'abord de définir ce dont on parle.
Ça ne veut pas dire ne pas pouvoir être contre la politique du gouvernement israélien. Moi, Benjamin Netanyahou, c'est pas mon concours de beauté. Très clairement, on peut être contre la politique menée par Benjamin Netanyahou, et ça, c'est évidemment pas sanctionnable, évidemment. Par contre, nier l'existence d'Israël, dire que l'État d'Israël n'a pas d'existence et ne doit pas exister, ça doit être sanctionné.
Et quand on dit sale sioniste, c'est quoi alors?
C'est une façon de parler, mais au fond, on veut dire sale juif. Donc sale sioniste doit être pénalement sanctionnable.
Et ça repose l'éternel dilemme entre ce qui relève du délit et de la liberté d'opinion. L'historien Dominique Vidal, par exemple, se demande si on ne met pas le doigt dans un engrenage totalitaire. Pourquoi ne pas interdire les anti-impérialistes, les anti-communistes, sujet sensible pour l'exécutif qui ne ferme pas la porte, mais émet des réserves. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était sur France 2 ce matin.
Il faut faire attention à ce que l'on veut condamner. Le reste mérite un débat au Parlement. Je crois que nous avons les instruments de la sévérité. Nous devons absolument progresser sur les faits que nous allons pouvoir qualifier.
L'exécutif qui renvoie à un débat au Parlement, mais sur quoi? Sur quel texte? Sylvain Maillard pourrait déposer une proposition de loi, c'est pas tranché, ou une résolution, mais une résolution ce n'est pas contraignant. Le député aimerait surtout que le président s'empare du sujet, l'intègre dans son discours annuel devant le CRIF, ce sera mercredi soir au Louvre, initiative parlementaire et uniquement parlementaire, nous dit l'Élysée ce midi.
Comment lutter contre l'antisémitisme? Appel à des marches demain à Paris, mais pas seulement. 14 partis politiques ont signé l'appel initié par Olivier Faure, le socialiste. Marine Le Pen est la bienvenue à la manif, dit Olivier Faure. Elle n'avait pas été invitée initialement. Seront de la marche Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, mais pas le président de la République Emmanuel Macron, qui fait savoir qu'il ne participera pas au rassemblement demain. Il s'exprimera mercredi soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juive de France. Bonjour Bertrand Delanoë.
Bonjour.
Ancien maire de Paris, signataire également il y a quelques mois du manifeste contre le nouvel antisémitisme. Nous avions envie, Bertrand Delanoë, de vous entendre sur ce sujet qui vous tient à cœur. Que dites-vous face à cette résurgence d'actes antisémites?
Je vous cache pas que je suis terrifié et partagé entre la colère et l'immense tristesse, parce que c'est une régression pour les valeurs de la société française qui est particulièrement dramatique. Bon, cela dit, il y a des réactions quand même. Il y a des réactions des partis démocratiques. Je suis assez frappé qu'ils aient été capables d'organiser demain soir cette manifestation sans aucun esprit tactique ou partisan.
Donc, vous en serez, Bertrand Delanoë?
Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est une réaction que je trouve très saine. Donc, à la fois, je crois qu'il faut être extrêmement combatif parce que ce qui se passe dans la société française, cette espèce d'idéologie de la haine qui passe toujours par le rejet de l'autre quand il est différent. Alors l'antisémitisme est une de ces manifestations la plus sans doute barbare. Mais il ne faut pas dénoncer que l'antisémitisme, il faut dénoncer les antisémites. Parce que derrière cette vague qui est vraiment particulièrement dangereuse, il y a des gens. Et ces gens qui profèrent des idées de haine doivent être dénoncés et combattus.
J'ai été frappé par notamment la réaction des fils de Simone Veil, disant que justement, ils ne souhaitaient pas porter plainte pour, sous-entendu, ne pas mettre d'huile sur le feu. Vous nous dites qu'il faut porter plainte, il faut être plus combatif.
Ah, pas nécessairement. Vous savez, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierre-François et Jean Veil. Et au contraire, je respecte beaucoup leur attitude. Ce que je crois, en revanche, c'est qu'il est absolument indispensable que la République se défende. Et de la même manière, dans l'affaire qui a visé Finkielkraut samedi, je trouve bien que ce soit la justice française qui prenne en main le combat contre l'antisémitisme et les antisémites. Parce que lorsque la justice française dépose plainte et entame une procédure judiciaire, ça veut dire que les gens qui ont été coupables seront sanctionnés. Donc je crois que c'est une autre manière de faire front, mais collectivement, au nom de ce que nous sommes en tant que société démocratique.
Bertrand Delanoë, au-delà de votre participation à la marche de demain soir, est-ce que pour lutter contre l'antisémitisme ou sur d'autres sujets, vous avez envie de jouer un rôle dans le grand débat là qui est en cours?
Je verrai si j'ai des occasions d'aller dans les réunions du grand débat. Il y en a une, par exemple, jeudi, qui a lieu sur la fin de vie. Moi, je suis très engagé aussi aux côtés de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et puis, il y a des questions sociales aussi. Vous savez que je suis non plus membre d'un parti de gauche, mais membre d'un syndicat, la CFDT. Je considère que Laurent Berger a été vraiment, dans les 6 derniers mois, l'homme public qui a dit les choses les plus sages, les plus constructives, les plus utiles pour que nous vivions ensemble, mais avec une préoccupation de justice sociale. Donc, je ne cherche aucun rôle, mais quand je peux apporter ma contribution de citoyen qui a des convictions, hein, qui n'ont pas changé, je le fais, mais je ne me prends pas pour quelqu'un qui a un rôle, comme vous dites.
Et cette méthode du grand débat vous semble intéressante? Il en émerge des choses intéressantes?
Écoutez, je trouve quand même assez utile qu'on donne la parole aux citoyens. Surtout quand on est dans une période de crise, de perte de confiance, il faut qu'on refasse du commun. Et ces réunions de grand débat, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a des fois celles qui sont médiatisées, il y en a qui ne le sont pas. Je pense qu'on perd jamais son temps, même si c'est compliqué, à donner la parole aux citoyens et à confronter les points de vue. Moi, je me souviens que quand je faisais les comptes rendus de mandat, souvent les citoyens exprimaient des avis contradictoires entre eux. Et donc j'essayais de leur dire comment on va trouver le chemin de l'intérêt général qui n'est pas seulement la somme des intérêts particuliers.
Et le président de la République a raison de s'impliquer autant.
Oui, oui. Alors faut faire attention parce qu'évidemment, quand il dit rien, on le critique. Et puis quand il est très présent et qu'il écoute beaucoup et qu'il parle, c'est normal, c'est son rôle, on le critique aussi. Alors bon, voilà, faut toujours trouver le bon équilibre entre la parole libre des citoyens, mais aussi la volonté à un moment donné de faire converger cela vers quelque chose qui nous est commun, justement.
Bertrand Delanoë, vous gardez un regard évidemment sur la politique à Paris et sur les pions qui se mettent en place en ce moment, sur les candidats qui avancent?
Oui, bien sûr, Paris c'est ma ville, je l'aime passionnément, autant que quand j'en étais le maire, mais j'ai la modestie de considérer qu'aujourd'hui ce n'est pas à mêler des affaires municipales. Je regarde tout ça avec, bien sûr, beaucoup de bienveillance, d'amitié. Ma réaction vis-à-vis des Parisiens, c'est de les écouter et d'être heureux encore de partager beaucoup avec eux.
Bon, j'aurais essayé. Il y a un moment où vous prendrez très clairement position ou pas, et je m'arrête là après.
Vous savez, quand je pense que c'est vraiment très utile, je le fais. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'accorde pas à moi-même une importance telle que j'ai nécessairement à m'exprimer sur tout. On verra. Quand vous avez, à un moment donné, quitté la responsabilité publique, vous avez le respect de celles et ceux qui exercent les responsabilités publiques.
Merci Bertrand Delanoë d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et donc on vous verra demain à la manifestation contre l'antisémitisme. Au revoir, bonne journée. Bertrand Delanoë, entretien enregistré en milieu de matinée. Alors cette crise des gilets jaunes, ce sont donc les manifs le week-end, de plus en plus la violence qui surnage, mais aussi le débat à travers la France, on en reparle tout à l'heure. Et puis les mesures prises, les annonces faites pour doper le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est efficace ou pas? On peut dresser un bilan d'une des annonces qui ressemblait honnêtement à une bouteille à la mer. L'appel lancé en décembre par Emmanuel Macron aux entreprises à verser une prime à leurs salariés, eh bien l'appel a été plutôt reçu et suivi, Laurent Kramer.
Oui, avec ce chiffre qui surprend, 74% des entreprises interrogées à l'initiative de l'Association nationale des DRH ont donc répondu positivement à la demande d'Emmanuel Macron pour verser en moyenne 532 euros à leurs salariés. Avec des primes plus élevées dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles ont versé 690 euros en moyenne et elles participent davantage. 80% des entreprises de moins de 11 salariés participent au dispositif de cette prime défiscalisée. Dispositif, on le sait, encadré, limité au salaire en dessous de 3 SMIC. Les entreprises ont également choisi d'introduire un autre critère, un critère d'ancienneté. Les deux tiers des entreprises interrogées répondent donc avoir modulé cette prime en fonction de l'ancienneté de leurs salariés. Impossible pour le moment d'avoir le montant global du pouvoir d'achat redistribué aux salariés français. Réponse au printemps prochain, les entreprises ont jusqu'au 31 mars pour se faire connaître et verser cette prime sans aucune charge ni fiscalité.
La France qui traverse cette crise politique et beaucoup d'autres pays européens également. Et dans un peu moins de 100 jours, se tiendront dans les 27-28 pays de l'Union les élections sans doute les plus importantes depuis que le Parlement européen existe. Les populistes et les mouvements d'extrême droite en particulier vont-ils, sinon prendre le pouvoir, en tout cas gagner en influence au Parlement de Strasbourg? L'Institut Kantar-Sofres va réaliser une série de sondages au fil de cette campagne dans les 28 pays. Les élections, c'est fin mai. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour.
La première vague était présentée ce matin et oui, si l'élection avait lieu dimanche, Audrey, l'extrême droite progresserait.
L'Europe des nations et des libertés. Retenez bien ce nom, c'est le groupe qui gagnerait le plus de sièges, 18, pour atteindre 8%. C'est le groupe dont fait partie le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais on ne peut pas parler de tsunami nationaliste pour autant, hein, surtout en regardant les voisins tout à droite de l'hémicycle, deux groupes qui stagnent. L'autre progression notable, c'est celle des centristes, souligne Emmanuel Rivière, qui coordonne cette étude du cabinet Kantar.
On voit une progression importante qui est nourrie par la progression de Ciudadanos en Espagne, par les libéraux-démocrates en Allemagne et d'autres apports auxquels pourraient s'adjoindre les députés La République En Marche, même s'ils ne s'inscrivent pas naturellement et immédiatement dans le groupe L2E.
Mais l'accord est sur le point d'être signé avec cette alliance des libéraux et des démocrates. Les élus En Marche pourraient apporter 20 sièges supplémentaires à ce gros groupe centriste, le troisième du Parlement européen. Tout cela se ferait au détriment des deux principales forces en présence, les socialistes et démocrates qui pâtissent particulièrement du Brexit. Un gros contingent de travaillistes y siégeait. Il n'aurait plus que 19% des élus. De son côté, le PPE, Parti Populaire à droite, perdrait une trentaine de sièges, mais resterait tout de même la première force politique de cette Assemblée, celle qui devra trouver une coalition après les élections fin mai.
Et alors, ces élections dans 27 ou 28 pays? Eh bien, à mesure que le débat sur le Brexit s'enlise à l'ombre, on est bien obligé d'envisager un scrutin fin mai avec la Grande-Bretagne. Angélique Boin, vous qui êtes notre correspondante à Bruxelles, au sein des institutions européennes, les juristes font provision d'aspirine. Hein. On les comprend quand on sait que l'un des plus fervents partisans du Brexit pourrait être candidat à ces européennes si le Brexit est reporté.
Signe que le sujet est sur la table, Nigel Farage s'est dit prêt en cas de report à se porter candidat aux européennes sous l'étiquette d'un nouveau parti. Mais le sujet est explosif. D'un point de vue juridique, le prochain Parlement ne peut pas se passer d'élus britanniques si le pays est encore dans l'Union au début de la mandature, fin juin. Mais pour Marianne Donny, juriste à l'Université de Bruxelles, cela pose aussi des questions politiques.
Le Royaume-Uni est censé, dans cette situation, organiser des élections, mais il se peut très bien qu'il ne le veuille pas. Il se peut que, le voudrait-il même, il soit dans l'incapacité totale de les organiser, vu qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Mais on pourrait dire que d'un autre côté, il pourrait être parfaitement anormal que les Britanniques organisent ces élections, envoient donc des députés au Parlement européen, et que ces députés puissent avoir finalement une incidence importante dans la désignation du futur président de la Commission européenne, alors même qu'il partirait.
Car c'est le Parlement qui validera les nominations à la tête de l'institution, et certains redoutent en cas d'élection outre-Manche l'arrivée massive de députés eurosceptiques. Autre casse-tête, que ferait-on des sièges des parlementaires britanniques déjà redistribués à plusieurs États membres, 5 de plus pour la France par exemple? Personne ici n'a très envie de se poser la question. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
À partir d'aujourd'hui, Theresa May fait à nouveau la tournée des dirigeants européens. Et puis, 7 députés travaillistes ont annoncé ce matin qu'ils démissionnaient du grand parti britannique de gauche pour deux raisons. Gestion du Brexit et de l'antisémitisme. On y revient par le dirigeant du parti travailliste, Jeremy Corbyn. Corbyn régulièrement accusé d'ambiguïté sur ce thème de l'antisémitisme.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et bonjour Jean-Philippe Denis.
Bonjour Bruno.
Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire des abus sexuels dans le diocèse de Lyon va très certainement sortir mercredi. Figure centrale de cette affaire et donc du film, le père Prénat, qui n'est pas encore jugé par la justice. Hein. Ses avocats demandaient le report de la sortie du film jusqu'à son procès. Eh bien, ils sont dépoutés, Jean-Philippe.
Oui, avec un raisonnement en 3 points pour le tribunal des référés de Paris, à qui le père Prénat demandait à ce que la présomption d'innocence l'emporte sur la liberté de création. Tout d'abord, le tribunal estime qu'il n'est pas démontré chiffrés que, grâce à Dieu, contiennent des éléments qui ne sont pas déjà connus du public au travers des articles de presse ou des livres déjà parus. Les magistrats disent ensuite que les spectateurs sont avertis en début et en fin de film que cette œuvre est une fiction basée sur des faits réels et que le père Prénat est présumé innocent. Enfin, et c'est là le plus intéressant, le tribunal signale que ce film sort donc très longtemps avant un éventuel procès du père Prénat qui est toujours pas audiencé et qu'il n'y a donc pas d'atteinte au caractère équitable des débats à l'audience comme ça aurait été le cas si le film était sorti juste avant un tel procès. Et les juges des référés de Paris concluent qu'un report de la sortie de ce film aurait constitué une atteinte grave et très disproportionnée à la liberté d'expression et de création en entraînant notamment des conséquences économiques insupportables pour le producteur et le distributeur.
Sorti donc mercredi sur les écrans, on garde un micro conditionnel parce qu'il y a encore une audience à Lyon cet après-midi mais qui ne devrait pas changer les choses. Avec Bertrand Delanoë tout à l'heure, nous parlions du grand débat en cours à travers la France. Un sujet en est relativement absent, c'est la culture. Alors il y a quelques initiatives pour changer les choses. Beaux-Arts Magazine et la Fondation du Patrimoine lancent à la fois une plateforme granddebatculture.fr, on peut laisser une contribution, et puis deux soirées de débat seront organisées à Paris spécifiquement sur cette question de la culture les 5 et 10 mars. Frédéric Jousset est l'un des administrateurs du Louvre et le propriétaire de Beaux-Arts Magazine. Écoutez-le.
La culture est un sujet qui nous passionne tous. Je connais pas un Français qui soit pas sensible à ce thème. Et pourtant, on constate que dans le grand débat national que le président de la République a voulu, c'est le grand absent. Il n'y a aucun volet ou mention, possibilité de spécifiquement déposer des contributions sur ce thème. Et ça nous paraît un thème absolument majeur. Je pense que le message qu'envoient les Gilets jaunes, abîmant, détruisant des monuments publics, aussi symboliques que l'Arc de Triomphe, c'est qu'il y a un problème du rapport des Français avec la culture et le patrimoine, et qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. La culture, c'est un produit de première nécessité. C'est très important de débattre de la place des éoliennes dans le paysage et des campagnes, ou de la fiscalité du gazole, mais la place de la culture, qui est quand même le ciment d'une nation, ce qui nous définit, ce qui nous unit, ça nous paraît aussi important et ça nous paraît mériter cette place dans le grand débat.
Un propos recueilli par Fabien Randrian Arisoa. Le site, si vous souhaitez déposer une contribution, c'est donc granddebatculture.fr et les échanges se tiendront le 5 mars à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et le 10 mars au 104. Tout cela est à Paris, en province, sur la Tène de Château-Vallon également. Un débat dans la région toulonnaise lundi prochain. C'est à l'initiative notamment de Charles Berling. Elle s'appelle Caster Semenya. Si vous suivez l'athlétisme, vous connaissez le nom de cette sportive sud-africaine. Double championne olympique, triple championne du monde du 800 mètres. Au-delà de ce palmarès impressionnant, sa particularité, c'est qu'elle produit naturellement un taux élevé de testostérone, à tel point que la Fédération internationale d'athlétisme lui demande de prendre des médicaments pour faire baisser ce taux, en estimant qu'elle n'est pas sur un pied d'égalité avec ses concurrentes. Elle refuse et l'affaire se traite devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne à partir d'aujourd'hui. Fabrice Rigobert.
Caster Semenya remporte son premier titre de championne du monde en 2009. Soumise à des tests de féminité confirmant son taux naturellement élevé de testostérone, elle est alors interdite de compétition pendant 11 mois avant d'être réintégrée. Deux ans plus tard, la Fédération internationale d'athlétisme fixe à 10 nanomoles par litre de sang le taux à ne pas dépasser avant de demander, il y a un an, aux championnes qui présentent des différences de développement sexuel de prendre des médicaments pour abaisser ce taux en dessous de 5 nanomoles pour rétablir l'équité. Caster Semenya revendique aujourd'hui son droit à courir naturellement. Ses avocats parlent de discrimination. Le monde sportif est, lui, divisé entre ceux qui dénoncent un avantage qu'ils assimilent à du dopage naturel et les autres qui estiment au contraire que la recherche de l'égalité dans le sport est vaine. Jusqu'où peut-on potentiellement aller ? Pénaliser un coureur plus grand qu'un autre sous prétexte qu'il tire avantage de sa morphologie ? Ou prendre des médicaments pour accélérer le rythme cardiaque d'un athlète au cœur plus lent que les autres ? Un sujet épineux pour le tribunal arbitral du sport qui rendra sa décision courant mars.
Et le président de la Fédération internationale d'athlétisme, l'anglais Sébastien Coe, défend le changement de règle. Il parle à propos de l'audience d'aujourd'hui d'un jour très très important pour l'équité des compétitions et la promotion des jeunes filles et jeunes femmes en athlétisme. Et quelle place pour les femmes dans la langue et dans les fermes françaises ? C'est notre page débat sur la féminisation de la société qui s'ouvre. Les mots d'abord, l'écriture inclusive gagne du terrain sur Internet, dans la presse, dans l'édition, mais à tort ou à raison, deux grandes institutions restent plus que réticentes, l'Académie française et l'administration. En résumé, pour elles, l'écriture inclusive rend la langue moins claire. Ce qui est visé en particulier, c'est le point médian, vous savez, cette façon d'écrire français, point du milieu, e, point du milieu, est-ce pour inclure les hommes et les femmes ? Une circulaire du Premier ministre l'année dernière interdit ce type d'écriture dans les actes administratifs qui doivent paraître au journal officiel. Eh bien, un collectif de juristes attaque la circulaire devant le Conseil d'État aujourd'hui. Écoutez l'un des signataires, Benjamin Pitchot, il est avocat, avec Emmanuel Leclerc.
Quand on publie une vacance pour un poste dans l'administration, on n'est pas en train de faire du Rimbaud, on n'est pas en train de faire du François Villon. Donc là, effectivement, le point médian a son utilité, il a son efficacité. Ne mélangeons pas tout. Tous ces niveaux de langue coexistent. L'écriture avec le point médian est parfaite pour le niveau administratif. C'est-à-dire que si le Parlement, par exemple, veut voter une loi qui utilise le point médian, on ne pourra pas en assurer la publication au journal officiel. C'est un vrai problème de constitutionnalité ici. C'est un problème de séparation des pouvoirs. On a souhaité défendre la liberté pour chacune et chacun de s'exprimer comme elle et il le souhaite, que ce soit avec un point médian, que ce soit avec une règle quelconque. Le deuxième point est lié, bien sûr, au fait de permettre l'apparition des femmes dans notre langage, puisqu'on sait très bien que le langage structure notre monde et que si on fait disparaître les femmes de notre langue, on va les faire disparaître de l'espace public, des postes à responsabilité et de notre monde, justement, in fine.
L'intégralité de cet entretien, les arguments développés sont à retrouver sur franceinter.fr. On parlait de l'Académie française. Toute petite incise, c'est aujourd'hui que l'écrivain Patrick Grainville, élu l'année dernière à l'Académie, reçoit son épée. Mais revenons à la place des femmes dans les fermes, cette fois-ci. À partir de samedi, se tient le salon de l'agriculture. C'est un rendez-vous avant ce salon, l'élection de Miss France Agricole. Ce qui est intéressant, c'est que cette élection, qui existe depuis 6 ans, est l'occasion d'entendre des jeunes femmes parler de leur passion pour l'agriculture. Alors, au micro de Sandrine Houdin, voici notre témoin du lundi, Clémentine Rigaud, 18 ans, élue Miss France Agricole 2019. Elle est originaire de Beaufort-sur-Gervanne, dans la Drôme. Elle est en première année de BTS agricole et elle rêve de reprendre la ferme familiale. Oui, on peut être jolie, jeune, femme et agricultrice, éleveuse de moutons en l'occurrence. On les entend bien, les moutons.
Une femme dans l'agricole, bah, la journée, elle peut être en bottes et en salopette, mais le soir, pour sortir, pouvoir mettre du maquillage, des talons et une belle robe. On croit que les femmes dans l'agricole, bah, elles sont pas jolies, elles prennent pas soin d'elles, alors que bah, c'est faux.
Vous savez ce que c'est qu'un bâton de rouge à lèvres ?
Ah oui, oui, tout à fait.
Des jolis dessous.
Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai des mèches, enfin voilà, on reste féminine quoi qu'il arrive. La journée, j'ai les mains dans la boue, mais le soir, bah, je peux sortir autant avec mes amis et mettre une jolie robe.
Pourquoi ? Quelle image vous colle à la peau ?
Une vieille ménagère au fin fond de la montagne, avec des bottes et les vieux tabliers comme les grands-mères avant. Enfin, on prend pas soin de nous, quoi.
C'est agricultrice et le petit mec, c'est quoi ?
Ah bah oui, oui. Ah oui, tout à fait. Parce que du coup, bah moi, là, je suis dans un monde où il y a essentiellement que des garçons.
Et alors, Miss France est invitée sur les plateaux télé, dans les grands restaurants, etc. Vous l'enviez ou pas du tout ?
Pas du tout. C'est pas mon truc. Moi, je préfère être au milieu des brebis, les pieds dans la boue à la rigueur, mais pas être sur un plateau télé, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse.
Vous n'enviez pas la couronne de Miss France ?
Ah bah, je pense que ça doit être lourd, puis j'aurais peur de l'abîmer, je pense. Non, non, c'est pas la chose que j'aimerais avoir.
Vous êtes fière d'être Miss Agri 2019 ?
Oui, oui, oui. Après, je m'y attendais pas du tout, parce qu'au début, c'était vraiment pour rigoler avec mes parents. Je m'attendais pas du tout à être élue, et aujourd'hui, je suis très contente de représenter le monde agricole féminin.
Et pour rappel, le salon de l'agriculture, c'est à partir de samedi à Paris. Un mot si vous devez emprunter le réseau sud-est des TGV. Il y a plusieurs heures de retard à cause d'une panne électrique dans Lyon. Les trains Paris-Lyon doivent prendre une ligne moins rapide.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Une perturbation s'est infiltrée hier vers le Finistère. Elle va progresser lentement et intéresser cet après-midi la Bretagne et la Basse-Normandie. Les pluies associées seront faibles. À l'avant des Pays de Loire, au Nord-Pas-de-Calais, en passant par la Haute-Normandie, le ciel sera nuageux. Le soleil, quant à lui, va encore briller généreusement dans les autres régions, excepté vers le Languedoc, le Lauragais et les Cévennes, où le ciel sera encore très nuageux, lâchant localement quelques gouttes de pluie. Les températures maximales vont baisser dans l'ouest, prévoyez 10 à 13 degrés. Partout ailleurs, la douceur restera d'actualité avec des valeurs comprises entre 14 et 19 degrés. Demain sera la journée de la semaine la plus nuageuse. La perturbation finira de traverser notre pays. L'ensoleillement restera généreux au-dessus des Pyrénées, du Massif central et de la région PACA au Massif alpin, sans oublier l'île de Beauté.